Non, je ne veux pas ton avis. Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne devrais pas en vouloir. Du mien comme du tien. Votre principal problème, c'est que l'on vous a fait croire qu'avoir un avis suffisait à faire de vous quelqu'un. Vous êtes inconsciemment convaincu de n'être que la somme de vos opinions, et que les répéter le plus souvent et à qui veut l'entendre, c'est ce que l'on appelle exister. Et ça c'est une aberration que nous allons scrupuleusement détruire aujourd'hui. Mais avant tout, le combat que je vous propose de mener aujourd'hui est tout intérieur, et si je compte bien vous donner de sérieux éléments de réponse, toute cette quête fait partie d'un plus grand parcours, un combat intérieur pour se retrouver, pour se regarder en face et arrêter de subir le monde comme écrasement perpétuel. C'est tenter d'être autre chose qu'un homme pavlovien, façonné par les logiques algorithmiques et l'actualité infernale du monde. C'est se rappeler tout ce qu'être un homme suppose, de grandiose, de dangereux, et d'imprédictible. Et c'est ce que je vous propose dans mon nouvel ouvrage S'anomaliser, un manuel de contre-attaque pour celles et ceux qui ne comptent pas abdiquer avant même d'avoir combattu. Le livre est disponible. Pour vous le procurer, le lien est en description. Si vous aimez mon contenu au Dolmen, nul doute que le voyage que je vous y propose ne vous laissera pas de marbre. Vous m'en direz des nouvelles. Bon épisode et bonne lecture. Le monde est ignoble et il faut y faire quelque chose. Voilà probablement, en condensé, ce que je vous aurais expliqué si vous m'aviez croisé, à 18 ans, à la terrasse d'un café. On aurait un peu discuté et très vite, vous vous seriez rendu compte d'une chose. J'avais un avis sur tout. Et pas simplement un avis bas de gamme, s'il vous plaît. Un avis recherché, un avis avec ornement, un avis princier. J'étais le duc des idées. Je lisais comme un diable. Philosophie, philosophie politique, tout ce qui alimentait mon feu intérieur était bon à prendre. De droite, de gauche, du moment qu'il y avait là-dedans un soupçon de radicalité, je m'en délectais avec passion. J'étais, je pense, parmi les gens les plus au courant de l'actualité du tout politique. J'en arrivais à sincèrement me passionner pour le discours du grand théâtre, j'avais les yeux collés sur la vitre, à suivre l'actualité internationale et nationale, les mouvements d'opinion, les débats, les polémiques. J'étais engagé dans le monde, jusqu'au bout des ongles, et comme beaucoup, en réalité. À la terrasse de ce café imaginaire, je vous aurais probablement traîné jusqu'à mes sujets de conversation favoris. Décadence, nihilisme, contrôle des masses, système politique, bref, vous connaissez la musique. Je vivais les événements d'actualité dans ma chair. Et je crois que, quelque part, j'ai beaucoup de tendresse pour ce moi du passé. Mais aujourd'hui, je suis bien obligé de le reconnaître, j'étais atteint d'une étrange maladie qui touche beaucoup de jeunes gens de ma génération. Une maladie protéiforme qui se glisse sous l'épiderme des êtres animés et féroces. Un parasite, celui de l'implication dans le monde. Son objectif est très simple. Vous dépassionner pour vous-même et vous passionner de force pour tout ce qui est indéniablement extérieur à vous. Que ce soit l'état du monde, l'actualité, les sécrétions numériques, la dernière sortie polémique d'un pantin politique, le dernier ragot de la semaine ou du mois. Vous devez vous passionner pour la grande marche du monde. On vous veut toujours à fleur de peau, toujours engagé et positionné. Vous devez être au courant, sous peine de n'être rien. Vous devez rejoindre un de ces grands camps de société, parler avec ceux qui parlent, consommer le monde comme un flux continu, comme un murmure inarrêtable qui ne vous laisse tranquille que, rarement la nuit venue, lorsque vous verrouillez enfin votre petit appareil de poche. Au matin, la paupière encore collante, vous ne tarderez pas à vous y raccorder à nouveau, comme un cordon ombilical. Vite, que se passe-t-il? Que dit le monde? Qui dit quoi? À qui? À moi? À d'autres? J'avais faim. Faim de sociabilité factice. Je voulais qu'on m'anesthésie de moi. Rejoindre le grand bruit du monde est une tentation que nous connaissons tous. Et en vérité, c'est un mouvement naturel. L'homme est un animal social, me répondrez-vous. Et vous auriez raison. Nous sommes des êtres de groupe, nous regardons ce qu'il se passe et nous y réagissons, nous parlons et nous commentons l'actualité. Mais si l'homme est social, rien ne l'oblige à n'être que social. En réalité, l'homme moderne est aujourd'hui plus social. Il est devenu société, sa propre petite société, pour lui-même. Nous sommes tellement engagés dans la soupe, recouverts, que, strictement parlant, nous n'avons presque plus rien qui nous appartienne vraiment. La plupart d'entre nous peuvent être reconstitués en additionnant quelques grands blocs idéologiques, politiques et publicitaires. Nous sommes devenus des additions de clichés que nous renforçons et que nous réactualisons chaque jour. Et ça, je ne pouvais plus le supporter. À parler comme le monde, je m'ennuyais de moi. J'avais l'impression que tout ce que je pouvais dire, penser ou produire n'était au fond qu'une abdication de moi-même face aux tentations du monde. Je répétais, j'additionnais, j'amplifiais, j'étais devenu une sorte de mégaphone humain et je déréalisais complètement. J'arrivais parfois à trouver le symétrique de ma pensée dans les mots d'un ami qui avait au matin consommé la même actualité que moi ou lu le même livre très récemment. Mes amis et moi étions de plus en plus semblables. Nos références culturelles s'ajustaient, nos bulles algorithmiques étaient quasi identiques. Plus rien chez eux ne me surprenait vraiment, et l'inverse est probablement tout aussi vrai. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques pistes pour vous diagnostiquer, pour juger de votre propre niveau d'ensevelissement, pour sortir de ce culte de l'opinion morbide. Voilà ma première question à vous poser. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment ? Qu'est-ce qui, dans le secret de vos esprits, n'est qu'à vous et n'est pas la simple copie d'une copie d'un des bruits du monde que vous vous êtes approprié ? Qu'avez-vous d'indéniablement singulier ? Qu'est-ce qui, tout au fond de vous, insistamment, sous les couches de boue, compte ? Aujourd'hui, je vous propose donc de plonger sous le monde et sous les opinions que vous prenez pour votre vie, pour tenter de nous y retrouver. Cette introduction à l'anomalisation vous donnera une idée du voyage que je vous propose dans mon nouveau livre. Bienvenue au Dolmen. Commençons par parler de la première manifestation de ce drôle de virus. Et je vous préviens, plus cette vidéo va vous énerver, plus il y a de chances qu'elle soit précisément faite pour vous. Alors, mettons les pieds dans le plat. Que pensez-vous de l'immigration, de la guerre en Ukraine, de la politique d'Emmanuel Macron, de la crise écologique, du salaire des médecins, des impôts, de Cyril Hanouna, ou du féminisme, de la question des Ouïghours, pourquoi pas ? J'attends. Vous commencez à comprendre ? C'est là que vous perdez. L'ensevelissement de l'homme commence par sa tendance névrotique à vouloir donner son avis, quoi qu'il en coûte et tout le temps, à l'offrir pour un rien, juste parce qu'on le lui demande. C'est précisément parce que, quand je vous pose ces questions, quelque chose en vous s'excite que vous perdez. Vous vous affalez dans votre narratif appris par cœur, vous bavez votre avis, suite à quoi vous vous demandez « Mais lui, là, derrière son micro, il est avec moi ou il est contre moi ? Ami ou ennemi ? Copain ou pas copain ? Dans ma tribu ou dans la tribu d'en face ?» Si quelque chose s'excite en vous, suite à ces grands mots signaux, eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes infecté. Et quant à moi, eh bien, mes amis ne sont pas chez ceux qui se réfugient dans la simplification de leur être au profit des grands narratifs impersonnalisants. Ils sont, pour ainsi dire, plutôt de l'autre côté. Pour être un homme décent, il ne suffit pas de s'habiller de prêt-à-penser et de parler par écho. Et j'en vois déjà certains s'offusquer en fond de salle, pensant que leur avis serait plus construit, plus recherché, façonné sur le temps long, à force d'écoute, de passionnantes émissions de réinformation ou de grands débats citoyens. Mais vous n'échappez pas au mal. Vous ne faites que rejoindre un narratif alternatif. Mais au fond, vous n'êtes pas meilleur qu'un autre. Vous ne déviez pas, vous raffinez votre addiction au monde. Vous êtes des addicts précieux. Voilà tout. Félicitations. Alors, demandez-vous, quel mot, quel sujet déclenche chez vous une hargne combative qui, vue de l'extérieur, n'a rien à faire là. Quand devenez-vous un soldat du monde? Ces points pavloviens marquent la limite de votre intériorité. À partir de là, vous n'êtes plus qu'un relais du bruit ambiant. Vous ne parlez plus, vous colportez. Qu'est-ce qui vous déclenche? Sur quel sujet êtes-vous engagé dans le monde jusqu'au cou? L'homme n'est pas qu'un relais des discussions, des actualités et des modes de son époque. Quelque chose sous la boue d'or. Ce quelque chose est la source de tout ce qui nous intéresse, de tout ce qui nous rendra la vie belle. Car, et c'est là tout le tragique de cette histoire, ce grand racontage, ces grandes opinions, si passionnantes soient-elles, n'ont jamais rendu personne heureux. Passer sa vie en plein milieu du monde, à des années-lumière de soi, voilà une bonne manière de ne jamais avoir à se fixer en face, dans les yeux. Je vais vous dire un secret. Dans mon adolescence, si je passais autant de temps à critiquer passionnément le monde, si la réaction à l'époque était devenue ma première et principale passion, c'est que je refusais de me regarder en face. Je disais « le monde s'effondre », je disais des grands mots « décadence », etc. Mais en réalité, c'est moi qui m'effondrais et refusais de le voir. Plus le monde me décevait personnellement, plus je lui en voulais. Dans sa globalité. Moins je me sentais puissant, plus j'accusais le monde entier, plus j'accumulais de petites défaites, plus je me rebellais. La politique, l'engagement dans de grandes causes tout extérieures à soi, voilà bien de superbes façons de se fuir. Alors, il y en a bien qui s'engagent dans le monde par altruisme véritable, mais sincèrement, combien le font comme dérivatif, comme fuite, comme revanche? Combien se missionnent d'une quête impossible pour ne pas avoir à endosser la difficile responsabilité de se rencontrer dans ses faiblesses et dans ses gouffres. Il est bien plus aisé de se lancer à la rescousse de Dieu, de l'époque, de la planète, des autres, d'un paquet de causes, qu'elles soient de droite ou de gauche, plutôt que d'avoir à consentir à soi. Et c'était mon cas. Plus je m'époumonnais à dire « les choses ne sont pas comme elles doivent être », plus je m'éloignais de moi. Je recouvrais ma peine, c'est tout. Quand on perd l'adhérence sur soi-même, on est vite tenté d'accuser le monde. On se sent réduit, alors il nous faut vite un bouc émissaire pour reposer toute notre rage maintenue. Je sais à quel point ce mécanisme d'engagement dans le monde est pervers. On s'engage dans une lutte à bras-le-corps plutôt que d'avoir à pleurer une bonne fois pour toutes. La politique, la cause, la passion pour le bruit ambiant et l'actualité, toutes ces choses sont des dérivatifs pour, souvent oui, des larmes maintenues. Combien discours alors qu'il devrait juste pleurer un bon coup. Le sentiment, si présent aujourd'hui d'une déréalisation lente et insidieuse, vient précisément de toute cette situation. L'homme n'est pas fait pour être plus au courant du monde que de lui. Nous ne sommes pas cognitivement équipés pour recevoir en instantané des informations et des avis sur tout ce qu'il se passe, de notre entourage proche jusqu'au fin fond d'un pays lointain. Ce n'est pas parce que l'époque nous offre des outils pour tout savoir tout le temps que nous sommes faits pour tout savoir tout le temps. Rien de plus normal dès lors que de perdre progressivement son propre sentiment d'existence. Vous vous remplissez du monde et vous vous videz de vous. J'écris dans S'anomaliser cette phrase. Nous ne pouvons vivre que loin de nous, au milieu d'une époque qui nous veut proche de tout. Le vide intérieur que nous sentons tous progresser au fond de nous, cette forme d'apathie existentielle grisâtre, n'est rien d'autre que le fruit d'une perte d'intérêt pour soi au profit des extensions idéologiques sous lesquelles le monde nous recouvre. En bout de course, nous devenons des humains-machines qui scrollent, qui écoutent, qui s'emplissent avant de régurgiter leur gavage conceptuel. Des êtres tragiquement prédictibles dont on peut quasi entièrement deviner la pensée après seulement quelques minutes de discussion. Rendez-vous compte, nous n'arrivons même plus vraiment à nous surprendre les uns les autres. Nous arrivons presque à deviner chez quel vendeur nous achetons nos opinions et nos avis. Nous sommes complètement prédictibles les uns pour les autres. Si vous vous ennuyez avec vous-même, alors imaginez les autres. L'homme est inlassablement tenté par sa propre vassalisation. C'est un mouvement que l'on retrouve à chaque époque. Mais aujourd'hui, l'inflation technologique nous donne les moyens de vivre sans vivre, de passer nos vies sans nous rencontrer, de nous contenter d'être un pur produit du bruit ambiant de notre époque, révolté ou consentant, peu importe, et de nous en satisfaire. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de vos semblables? Si je vous parle de politique, c'est parce qu'elle est, par excellence, ce grand ballet des opinions, des hommes sans vie, des mégaphones sur pattes. Les gens de droite sont en vérité des blessés revanchards. Ils disent « décadence », mais parlent le plus souvent de la leur. Enfin, ils lisent quand même de bons livres, laissons-leur ça. Quant aux gens de gauche, eh bien ce sont des idéalistes déçus, qui veulent changer le monde ou révolutionner l'homme, mais qui sont par ailleurs le plus souvent incapables de se regarder en face et d'admettre l'ambivalence fondamentale de l'expérience humaine. Mais ils sont tout de même de bonne compagnie. Alors, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Mais de vous à moi, le narratif, les antagonistes, les méchants, les gentils, à quoi tout ça vous sert au fond? Toute cette petite galerie de lettres, si ce n'est à vous amputer de vous-même. Vous feriez mieux de retourner ce feu vers l'intérieur de vous. Commencez par vous passionner pour vous-même avant de vouloir vous propulser dans le monde. Quelque part, vous vivez comme si vous alliez vivre 2000 ans, comme si vous pouviez prendre congé de vous en vous lançant dans des batailles imaginaires qui seront, de toute façon, balayées par le temps. Se passionner pour le théâtre et les gesticulations des hommes est tout de même une drôle d'idée. Il y a tellement plus passionnant. Quand ce n'est pas la politique, ce sont les algorithmes qui nous privent de nous-mêmes et nous recouvrent. Ils sont quant à eux devenus suffisamment puissants pour faire de nous des voyeurs frénétiques, des envieux insatisfaits, qui toute la journée ziotent la vie des autres pour ne surtout pas avoir à empoigner la leur. Tout est fait pour que nous restions en surface de nous-mêmes. Alors, le véritable courage ne consiste pas à chercher une opinion plus juste, à raffiner son addiction, mais à partir. Démissionner du monde, car tout ce qui compte se passe en bordure des choses, pas au milieu du bouillonnement. Abandonner le monde nécessite de se conquérir, ce qui est autrement plus ardu que de passer sa vie à être dorloté par ces vagues rassurantes et tièdes. Alors, comment sort-on définitivement de ce bruit ambiant du monde, de ces opinions pour rien, de cette boue? Eh bien, comme vous vous en doutez, je ne pourrai pas tout vous présenter ici. La quête intérieure est un long chemin, fait d'essais, d'erreurs, d'art, de solitude et d'extase. Et si j'ai écrit un livre, c'est précisément pour coucher tout ça sur le papier, une bonne fois pour toutes. Je sais à quel point beaucoup d'entre vous sont intégralement convaincus de l'importance de leur implication dans le monde. Et je m'attends à ce que beaucoup montrent l'écrou en commentaire. Mais je vais vous dire, préalablement, je ne vous en veux pas. Je comprends que vous défendiez vos certitudes comme un chien sur son os. Je sais que le monde a peut-être fusionné avec vous, que pour beaucoup, vous en détacher signifierait vous écorcher vif de tout ce qui vous constitue. Je sais que certaines causes vous semblent presque plus importantes que votre vie. Et j'en suis bien conscient, vous êtes persuadé que c'est juste. Je vous demande simplement de vous poser la question, dans le fond de vos consciences. Êtes-vous sincèrement convaincu que cette passion n'est pas une fuite, que ces opinions sont sincères? Êtes-vous absolument certain que le monde mérite l'importance et l'attention que vous lui offrez si gratuitement? Demandez-vous toujours, qu'est-ce qui mérite sincèrement votre attention? Choisissez précautionneusement les songes que vous laissez rentrer dans vos esprits. La dissociation est toujours là, à vouloir nous décharger de nos responsabilités. Nous vivons entourés d'étrangers à eux-mêmes, qui se réfugient dans la fascination, dans l'idolâtrie, dans les algorithmes, dans l'actualité ou dans le grommellement politique. En conclusion, nous n'avons que trois possibilités. Combattre, consentir ou fuir. Combattre son époque ne fait aucun sens. Vous ne changerez pas le cours des choses, vous ne ferez au mieux que lui donner raison et passerez votre minuscule vie sans la vivre. Vous finiriez aigri, ravagé par le passage du temps, prévisible, sanguin et hargneux. Consentir est une aberration. Se faire tout consommateur, passer sa journée entre l'actualité en continu, les algorithmes de recommandation et finir dissocié rigolard n'est pas une vie et vous ne devriez jamais vous en satisfaire. Alors, la seule option qu'il nous reste face à cet enfer, eh bien, c'est la fuite. La fuite temporaire et sublime. Fuir vers soi, voilà ce qu'il nous faut. Au Dolmen, je ne vous parle jamais ou très rarement du monde. Contrairement à certains autres créateurs, je fais le choix, de par mon contenu, de vous proposer une démission permanente. Et c'est sur ce chemin, celui de l'errance tard la nuit, avec du bac dans les oreilles, à la merci du vent et de Dieu sait quelle autre force supérieure, que personnellement, je me sens le plus vivant. Et je sais que cette résonance un peu subjective se retrouve chez nombre d'entre vous. Être humain est une drôle d'épreuve, et nous sommes chaque jour tentés de quitter la difficile mission qu'est la vie pour un contentement joyeux, percé de publications plastiques, de rêves d'emprunt et de mensonges sucrés. Mais je ne vais pas vous mentir. L'autre chemin, celui que je vous propose, le chemin de la démission, est périlleux. Se rendre compte de la supercherie que l'on prenait jusqu'ici pour sa vie est une vision qui n'est pas faite pour tout le monde. Mais en fin de compte, sur son lit de mort, vaut-il mieux avoir vécu intensément avec soi, nu, face au vent, misérable, mais entier, ou amputé de soi-même, au milieu du monde, incapable de ressentir quoi que ce soit, et l'oreille collée au mégaphone de la société. Je vous laisserai répondre. Retrouvez votre feu intérieur, celui de l'art, de la confiance en soi, et en la primauté inexplicable de votre désir singulier. Les moments les plus heureux de nos vies demeureront toujours de toute façon ceux où nous étions loin de tout, et proche de nous, que ce soit dans l'amour, dans le voyage, qu'il soit extérieur ou intérieur, dans ces échappées que le monde ne peut pas nous soustraire. Ce sont elles que nous devons prioriser et défendre comme nos plus beaux trésors. Vivre, quoi qu'on en dise, vivre correctement à mon sens du moins, c'est engendrer, c'est battre le fer encore chaud de l'être avant que celui-ci ne durcisse à nouveau, ce qu'il ne manquera pas de faire. Durant ce bref interstice qu'est la vie, il faut parfois savoir s'extraire de la grande usine humaine, des opinions et de toutes ces idées qui flottent. Il faut savoir retrouver le pouvoir de la solitude choisie, du silence, de l'ambition sincère. Exhumer la drôle de petite chose au fond de nous, qui n'a jamais vraiment accepté tous les mensonges que nous lui avons fait avaler. C'est ce que vous trouverez dans S'anomaliser. Le livre est disponible sur Amazon. En format physique, pour ceux qui aiment sentir le contact des pages avec leurs doigts, et au format liseuse et donc numérique, pour ceux qui préfèrent voyager léger. Repassionnez-vous pour vous-même, voilà tout ce que je peux vous souhaiter. À très bientôt, et bonne lecture.